Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Un vrai casse-tête à l'ouest de Paris depuis jeudi. A13 fermée en urgence et usagers désemparés.
Ben, je ne sais pas par où passer, au fait. Normalement, je prends cette route-là. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire.
L'autoroute A13, qui relie Paris à la Normandie, est fermée à la circulation sur 10 km et dans les deux sens entre Saint-Cloud et Vaucresson. C'est là, sur ce viaduc construit en béton il y a 50 ans, qu'une fissure a été découverte. Elle lézardait la chaussée sur toute la largeur et atteignait 80 cm de profondeur par endroit. Rien d'alarmant, assure la direction des routes d'Île-de-France.
On n'a jamais eu de problème particulier lié à la structure elle-même de la chaussée. C'est une chaussée qui fait l'objet également de réhabilitations assez courantes. Elle fait partie de nos autoroutes plutôt bien entretenues.
Cette fissure interroge sur l'entretien et la vétusté des routes et des autoroutes que nous empruntons. Selon le dernier rapport de l'Observatoire national des routes, 18% des nationales et 10% des départementales sont en mauvais état. Et ce n'est pas nouveau, les usagers de la route sont les premiers à s'en plaindre.
C'est honteux, on paye dans tous les côtés et puis il n'y a rien qui se fait.
C'est très dangereux, bien sûr, j'ai déjà pété une jante, moi.
C'est une horreur, il faut avoir un véhicule 4x4.
En 2018, un audit publié par le ministère de la Transition écologique avait tiré le signal d'alarme. Il pointait un sous-investissement chronique en matière d'entretien routier, appuyant les alertes déjà lancées par les entreprises chargées de la réfection du réseau.
Au niveau des 5 dernières années, nous avons perdu 30% d'activité uniquement sur l'entretien des réseaux routiers. C'est-à-dire qu'on a entretenu un tiers en moins que ce que l'on faisait les années précédentes. Or, on a de plus en plus de trafic.
Alors, avec un trafic toujours plus dense, des véhicules plus lourds et des aléas climatiques plus nombreux, que ce soit les épisodes de chaleur ou les inondations, faut-il repenser les investissements routiers ? Doit-on s'inquiéter de l'état des routes ?
Nos trois experts dans le cadre de ce débat. Julien Vic, bonsoir monsieur. Vous êtes délégué général du syndicat des équipements de la route qui regroupe les entreprises spécialisées dans les équipements routiers. Donc, selon vous, il y a un mouvement général de dégradation du réseau routier dont l'A13, la fameuse portion de l'A13, n'est que l'une des manifestations. La route, c'est comme une maison. Si l'on ne s'en occupe pas tout de suite, eh bien, cela va s'aggraver irrémédiablement. À côté de vous, Arnaud Aimé, ingénieur spécialiste des transports chez SIA Partners. Selon vous, les infrastructures routières n'ont pas toutes été conçues en fonction du dérèglement climatique, ce qui les rend plus vulnérables face aux grosses pluies et aux sécheresses. Et enfin, Lucille Schmitt, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Et selon vous, nous sommes l'un des pays qui possède le plus de routes. Cela pose donc la question de leur entretien. L'État doit accompagner les collectivités, en particulier les départements. Et on démarre avec l'image du jour, la fameuse fissure sur l'A13.
Tout à fait, à la sortie de Paris, c'est A13, et sur un tronçon d'environ 10 km, qui a donc entraîné sa fermeture, une entaille de 50 à 80 cm par endroit. Alors justement, Julien Vic, éclairez-nous, quelles sont les raisons de cette fissure? Est-ce qu'on les connaît désormais? Et est-ce que c'est vraiment si inhabituel?
Écoutez, il y a plusieurs hypothèses sur cette fissure. On imagine bien qu'il y a eu effectivement certains phénomènes liés à des travaux, c'est ce qui semble effectivement se dire. Tout n'est encore pas clair sur le sujet, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une route, c'est quelque chose de vivant, c'est un organe vivant avec différentes couches, des couches de forme, des couches de surface, et que forcément, c'est appelé effectivement à bouger, notamment en raison du changement climatique.
Et alors, est-ce que c'est si inhabituel que cela? Est-ce qu'il y a d'autres routes? Bon, là, c'est assez spectaculaire. C'est une autoroute qui est très empruntée par les Franciliens. Mais est-ce qu'il y a d'autres routes en France où on peut constater la même chose?
Il y a d'autres routes en France, effectivement, où nos routes ont été construites il y a plus de 50 ans. Donc forcément, avec la densité du trafic routier qui augmente, les véhicules qui sont de plus en plus lourds, on constate malheureusement de plus en plus de fissures, de plus en plus de dégradation de nos routes, de nos ponts.
Et c'est un problème pour la sécurité, Arnaud Aimé?
Non, ce n'est pas un problème pour la sécurité, parce qu'il y a quand même des dispositifs de surveillance qui sont mis en œuvre. Et avec ce qui s'est passé sur l'A13, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, il est surtout vide parce que effectivement il y a une fissure qui apparaît et qui bloque le trafic pendant des jours, alors que c'est une voie très empruntée. Mais là où on peut voir le côté un peu positif des choses, c'est qu'il y a quand même des dispositifs, des procédures, des outils de surveillance qui sont mis en place, qui ont permis de détecter ça, alors même que la fissure était en train d'apparaître et qu'il n'y avait pas encore eu de ressenti.
Donc il y a eu anticipation, vous voulez dire. Anticipation,
c'est peut-être en tout cas une détection. Au plus proche de l'événement, qui permet de le traiter avant que ça devienne dangereux pour la circulation et avant aussi que ça coûte peut-être trop cher à réparer.
Lucie Schmitt, il faut dire que la France est passée de la première à la 18e place mondiale pour la qualité de ses routes. Alors, il faut le dire aussi que c'est fondé, ce diagnostic, sur les déclarations des utilisateurs. Comment vous expliquez cette dégringolade ?
Alors, je pense que quand d'abord, il faut regarder la taille du réseau de ceux qui sont dans les premiers. Par exemple, il y a le Portugal, Singapour. Ce n'est pas la même taille de réseau que le réseau français. Donc, ça, ce n'est pas pour faire cocorico, mais c'est pour dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. La deuxième chose par rapport à la question des utilisateurs, c'est qu'il faut aussi dire qu'en France, par exemple, les utilisateurs sont peu associés à la question de l'état des routes.
Les utilisateurs, c'est-à-dire nous autres qui
empruntons les transports en commun, les bus ou ce genre de choses. Et par exemple, vous avez l'association 40 millions d'automobilistes, vous avez les motards en colère. Donc ça, on voit bien comment ça interpelle le gouvernement. Mais si on compare par exemple au Royaume-Uni, là, il y a une association beaucoup plus forte des usagers qui permet sans doute de détecter les choses en amont. Après, l'expliquer... C'est, me semble-t-il, c'est là-dessus que j'avais insisté. Dans les années 2000, on a fait en fait une très forte décentralisation en fait du réseau routier français, en confiant notamment aux départements des routes qui sont à forte densité. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il s'agit d'investir, de prévoir, de planifier la maintenance, qui a été évoqué par vous deux, il y a un sujet financier. Et il y a un sujet technique. Moi, je voulais quand même dire une chose, c'est qu'on est un grand pays, on a des ingénieurs des ponts, on a une grande tradition, en fait, d'ingénierie en ce qui concerne la route. On est un grand pays, historiquement, de construction de routes. Et comme le disait Julien Vic, on a un sujet sur la façon dont, aujourd'hui, on se projette dans l'avenir par rapport à cette tradition et dont on a pu perdre de la compétence.
Je précise que vous êtes ingénieur, on en reparlera tout
à
l'heure, mais
ingénieur,
comme vous avez évoqué le fait que l'État délègue au département, je propose une archive qui remonte à 2005. L'État décide de décentraliser l'entretien du réseau routier national et donc de le confier au département. Regardez.
Charles Trenet l'avait immortalisé. La Nationale 7 va devoir changer de nom. L'État décentralise la majeure partie de son réseau routier. 18 000 km de nationale vont passer dans le giron des départements. Les départements qui vont devoir entretenir et moderniser ce réseau en plus des départementales qui sont déjà à leur charge. L'État s'engage à mettre la main à la poche. Ce matin, Dominique Perben, le ministre des Transports, a promis une enveloppe de 185 millions d'euros. Quant aux automobilistes, ils peuvent être rassurés. C'est promis, il n'y aura pas de nouveaux péages sur les routes départementales de France. Pas question de copier l'exemple anglais.
Julien Vic, en fait, la décentralisation, c'était censé être plus de proximité, donc plus d'efficacité. Et en fait, on dit que c'est le contraire, que les routes départementales se dégradent.
C'est un constat. La Cour des comptes le pointe aussi dernièrement. Elle dit qu'il y a un manque criant de vision nationale, de stratégie nationale de l'état des routes en France. C'est un constat, c'est une réalité. Aujourd'hui, auparavant, les Français vous parleront encore peut-être des fois des DDE. On imagine effectivement les DDE.
Mais qui n'existent plus. Départementales de l'équipement.
Exactement, qui n'existent plus depuis plus de 20 ans, il faut le rappeler. Et les collectivités, ces fameuses collectivités où on a décentralisé les choses, sont bien souvent le parent pauvre de cette construction de routes. On voit, elles sont démunies, elles n'ont plus de services techniques pour pouvoir entretenir ce réseau routier. C'est compliqué de faire des routes, de les maintenir, de les garder en bon état. Et c'est là, je crois, le cœur du problème.
Alors Noémie, alors qu'est-ce qu'on fait? On renationalise? L'État est plus efficace?
Alors, nationaliser n'est pas le bon mot, parce que c'est en général l'opposition à la privatisation. Est-ce qu'on recentralise? La question est très politique. Alors moi, à titre individuel, non, je ne pense pas. Et je pense qu'il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que la décentralisation devait amener plus de proximité avec les usagers, avec les habitants de la région. Et ça, je pense que ça fait consensus. Là où ça peut poser problème, c'est ce que souligne Julien, c'est au-delà de l'aspect financier pour maintenir des routes, il faut avoir des compétences techniques. Ces compétences techniques, on peut les réunir quand il y a une masse critique, disons, quand il y a un gros service technique qu'on peut assembler. Autant ça marche pour un pays, autant ça marche pour une région, autant ça peut marcher pour de gros départements, autant pour une petite commune ou une petite intercommunalité, c'est plus difficile. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder ça décentralisé. Décentralisé, ça veut dire une décision qui est locale. Par contre, l'instruction des sujets, l'ingénierie, pour avoir des nouvelles méthodes, pour analyser l'état des routes, des nouvelles manières de réparer les routes, etc. On peut imaginer que ce soit mutualisé entre plusieurs communes, départements, en gardant une décision locale néanmoins.
Mais Lucie Schmitt, l'autre solution... Attendez, pardon, Elisabeth, c'est quand même... Est-ce qu'on n'a pas trop de routes en France ? Alors, on est le cinquième réseau le plus dense d'Europe et on sait très bien, on a beaucoup de chemins vicinaux, on a beaucoup de routes minuscules, on le voit dans nos campagnes. Est-ce que finalement, on n'a pas un réseau démesuré par rapport à notre capacité d'entretien ?
Moi, je pense qu'il faut voir que le chemin vicinal, la route, ça fait partie, d'une certaine manière, de notre imaginaire et de notre territoire.
Oui, certes, est-ce qu'on peut pas transformer ?
Sujet... Non, mais le sujet, si vous voulez, c'est sur beaucoup de routes, ça, on ne l'a pas vraiment dit, mais il y a évidemment une densité de transport très différente, c'est-à-dire qu'il y a les routes nationales, les routes départementales, les routes communales. Dans un pays où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui montre la crainte de l'enclavement, la crainte du périphérique par rapport à la métropole, je ne crois pas qu'il faille dire qu'il y a trop de routes. On peut se poser la question des nouveaux projets routiers, notamment des nouveaux projets autoroutiers.
Ah, vous pensez à la 69
Je pensais à la 69.
Mais il y en a beaucoup,
ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, on peut se poser la question lorsqu'il s'agit de construire des infrastructures très importantes. Mais en ce qui concerne ceux qui existent, je crois que ça fait vraiment partie, d'une certaine manière, de nous-mêmes et de notre culture. En revanche, sur la question de l'entretien, je voudrais insister sur le fait que si on programme des choses à échéance de moyen terme, il faut y mettre les moyens financiers, il faut mettre l'accompagnement en ingénierie, et qu'il y a une très forte décentralisation, mais qu'on a tendance à faire les choses dans des textes, et pas forcément en y mettant les moyens humains et la culture de la collaboration nécessaire entre l'État et les collectivités
locales. Alors, venons aux autoroutes, qui sont a priori, enfin, à part les fissures sur la 13, bien entretenues, peut-être parce que c'est du privé qu'il y a des péages qui coûtent cher et que grâce à l'argent recueilli par les péages, l'entretien est bon. Est-ce qu'il faudrait s'en inspirer, Julien Vic ?
Écoutez, en tout cas, c'est un constat. Hein. Les autoroutes aujourd'hui privées, voilà, le réseau routier est de bonne qualité aujourd'hui.
La 14 est de meilleure qualité que la 13.
Il y a un impensé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour la route. Ou qui paye pour la route ? J'ai toujours tendance à dire que rien n'est gratuit dans ce bas monde. Donc il y a besoin de trouver des mécanismes financiers, peut-être de nouvelles taxes pour pouvoir financer, rénover le
sur ces entreprises, sur ces gestionnaires d'autoroutes, par exemple, la taxe, 8 milliards de bénéfices depuis...
Taxer Vinci et les autres.
18, c'est énorme. Est-ce qu'on prend un peu à celles-là qui réussissent bien pour entretenir les autres ?
La réponse ne m'appartient pas. Je pense aussi qu'il y a peut-être aussi... Voilà, j'ai un avis bien particulier. Je pense aussi, notamment, on parlait tout à l'heure un petit peu d'écotaxe. Donc je pense aux pollueurs-payeurs, hein, c'est-à-dire ces camions étrangers qui traversent le territoire. On peut imaginer aussi certaines choses où, quand on dégrade le réseau, qui dégrade paye, quoi.
Juste une petite chose, une incise là-dessus, c'est que la Cour des comptes, dont on parlait Julien Vic, a par exemple estimé que la prise en compte du principe usager-pollueur est particulièrement faible sur les routes nationales, qui sont extrêmement fréquentées. Et donc ça signifie par rapport aux autoroutes qu'en tout cas le réseau des routes nationales aujourd'hui est financé largement par le contribuable et que ça ne permet pas forcément d'organiser la planification.
Alors vous parliez des camions, Julien Vic, c'est l'une des causes des problèmes que l'on évoque. Au moment où l'Europe vient d'autoriser la circulation de méga-camions jusqu'à 25 mètres de long et 60 tonnes de poids. Mais la France s'y oppose. Écoutez notre ministre des Transports, Patrice Vergriet.
La France s'oppose à la circulation des méga-camions. Aujourd'hui, 44 tonnes, ce n'est pas possible sur les ponts allemands. Donc on va laisser des 44 tonnes circuler, mais ils ne peuvent pas circuler sur les ponts. Aujourd'hui, nos infrastructures ne sont pas adaptées à des poids de cette nature. Donc aujourd'hui, ça coûterait une fortune pour adapter nos infrastructures aujourd'hui à ce type de méga-camions. Donc la réponse de la France, c'est non.
Arnaud Aimé, est-ce qu'on les taxe, même les camions, pas les méga-camions ? L'écotaxe, ça avait provoqué la colère, on s'en rappelle, des bonnets rouges, il y a quelques années.
Oui, il y a 10 ans.
Il y a toujours ces portiques énormes qu'on voit sur les autoroutes qui ne servent à rien.
Oui, alors ils sont de plus en plus décommissionnés, désinstallés, puisqu'ils posent des questions de sécurité. Effectivement, le projet d'écotaxe poids lourd, il y a 10 ans, qui a été annulé par Ségolène Royal et François Hollande, c'était quoi ? C'était un principe qui avait fait consensus quelques années avant au Grenelle de l'environnement. avec beaucoup d'associations écologistes qui étaient partie prenante à l'époque. Le principe, c'est autant sur les autoroutes concédées, là où il y a un péage, il y a un principe pollueur-payeur, c'est-à-dire utilisateur-payeur. Pour prendre l'autoroute, vous payez. Ce n'est pas le contribuable qui paye, c'est bien celui qui emprunte l'autoroute. Autant sur le réseau non concédé, eh bien, pour prendre la route, vous le savez, c'est gratuit pour l'automobiliste. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des contribuables qui payent, qu'ils utilisent ou pas la route. Donc, ce qui avait été imaginé il y a 10 ans, c'est que les poids lourds, c'est eux qui abîment la route, hein, ce n'est pas les véhicules particuliers, c'est essentiellement les poids lourds. Eh bien, quand ils utilisent les routes nationales, enfin le réseau national, eh bien, ils payent une taxe et cet argent en plus pour l'État, c'est d'autant moins d'argent à fournir par les contribuables et d'autant plus d'argent pour les infrastructures de transport en France.
Lucille Schmitt, on parle d'argent quand même. Les dépenses ont augmenté de 16% entre 2016 et 2022. Et en même temps, ça fait froid dans le dos. On a vu cet autre chiffre sur 30 000 ponts. Il y a 9% d'entre eux qui présentent des défauts majeurs de structure. Donc voilà, on met plus d'argent, mais ça ne suffira jamais. C'est impuissant.
Et on pense évidemment à l'accident du pont de Gênes.
Oui, bien sûr, de 2018. Ce qui est important, c'est que, en tout cas, dans la loi qui a été votée en 2020, il y a l'idée d'investir davantage sur la route. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'investir 1 milliard d'euros par an, alors qu'avant, on investissait autour de 750 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent dans un contexte de restrictions budgétaires. Mais ce qu'on sait, c'est que ça ne suffira pas. Et moi, je voudrais réinsister sur un point. C'est le sujet du débat public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, chacun d'entre nous emprunte la route à l'aveuglette, sans savoir au fond combien ça lui coûte comme contribuable, sans savoir au fond comment est-ce qu'on pourrait financer les choses par l'écotaxe. Et l'absence de débat public fait que, évidemment, on n'a pas envie de payer des taxes supplémentaires, on ne sait pas combien ça nous coûte réellement et on ne sait pas les risques que nous prenons en empruntant des routes qui seront de moins en moins bien entretenues, notamment dans les collectivités locales. Vous savez, c'est la loterie, c'est-à-dire que si vous avez un département qui entretient bien, c'est parfait, mais vous pouvez à côté avoir un autre département qui entretiendra moins bien. Donc il faut un État régulateur et il faut que les citoyens comprennent ce qu'ils risquent et en quoi ils sont eux-mêmes co-investisseurs d'une certaine manière. Les routes, c'est un patrimoine national.
Alors on va évoquer un pays dans lequel aussi ça grogne côté utilisateur, Royaume-Uni, Anna.
Oui, vous en parliez tout à l'heure, Schmitt. Le Royaume-Uni, ou plutôt le royaume des nid poules, là-bas il y en a tellement et de toutes sortes que la RAC, qui est donc la Société d'assurance et de dépannage routier, elle les a classés et elle leur a même donné des petits noms. Alors celui qu'on ne peut absolument pas éviter tellement il est énorme s'appelle l'Alcatraz, mais il y a aussi l'Alligator, vous pouvez les voir, le Sniper, le Canyon, bref, des noms qui font très peur. Et les citoyens aussi, eux, font preuve de créativité pour dénoncer les dangers de ces nids de poules, comme Marc Morel, qu'on voit ici, 63 ans, surnommé Mr. Pothole, donc Monsieur Nid de Poule. Et lui, ces nids de poules, il les met en scène avec humour. Regardez, donc là, on voit ces cratères, ils sont tellement profonds qu'il arrive à y faire cuire ses nouilles. Et puis, dans les trous remplis d'eau, on peut même faire flotter des petits canards jaunes en plastique. Ces photos, ensuite, il les partage sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien, pour interpeller les municipalités. Et ça marche. Grâce à lui, des portions entières de routes ont été complètement refaites. Et puis, il y a un autre citoyen qui s'appelle Vansky, en 2015, qui a eu aussi beaucoup de succès. Alors lui, son truc, c'était plutôt de dessiner des pénis géants autour de ses nids de poules pour alerter la municipalité. Alors, une méthode simple et très efficace. En 48 heures, les trous étaient rebouchés. Et tant mieux, car l'an dernier, les Britanniques ont quand même dépensé plus de 500 millions d'euros pour réparer leurs véhicules endommagés. Julien Vic, rassurez-nous, on n'en est quand même pas à ce niveau-là en France.
On n'en est pas à ce niveau-là, quoique j'ai vu dernièrement une opération des motards en colère qui, pour les fêtes de Pâques, mettent effectivement des œufs en chocolat dans les nids de poules. Donc on voit bien qu'il y a aussi un sujet donc,
humour et activisme
là-dessus. Et juste peut-être pour compléter, ce qui est vraiment important, c'est ce que Lucille Schmitt disait, on a besoin en France d'une stratégie de gestion de patrimoine de cette route et ces équipements de la route, mais malheureusement, les collectivités territoriales ne connaissent pas leur patrimoine routier. Elles ne savent pas effectivement parfois le linéaire qu'elles ont, le nombre de panneaux de signalisation, le nombre de linéaires marqués avec de la signalisation horizontale. Et si on ne connaît pas son patrimoine, on ne peut pas agir et on ne peut pas le maintenir et le rénover. C'est un petit peu ce cri d'alarme qu'on souhaitait lancer.
En même temps, Arnaud Aimé, c'est compliqué d'entretenir la route pour un département quand on lui dit justement qu'il faut bannir la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas une double injonction ? Attention à l'écologie et en même temps on vous dit entretenez nos routes. Ils ne s'y retrouvent plus.
Effectivement, ça pose la question des budgets qu'on répartit entre les différents moyens de transport. Bon, pour le département, c'est surtout la route, mais à l'échelle de la région, il va y avoir aussi les chemins de fer, le service TER, le chemin de fer régional. À l'échelle d'une ville ou d'une métropole, il y a aussi l'argent qu'on met dans le transport public. Donc il y a des arbitrages à faire. En tout cas, pour aller dans le sens de Julien, on est la collectivité est incapable de faire des arbitrages, si elle ne sait même pas combien de routes elle a, combien de kilomètres de route elle a, quel est l'état des routes. Aujourd'hui, le problème d'un certain nombre de collectivités, c'est qu'elles pilotent, entre guillemets, à l'aveugle. Elles ne pilotent pas à vue, elles pilotent sans voir. Mmh. Et c'est bien ça le problème. Et les problèmes que ça pose, pour revenir sur le bitume, et sur les nids de poules, je pense qu'il faut quand même un petit peu raison garder. À court terme, ce n'est pas des sujets de sécurité à ce stade. Par contre, ça va être des sujets de confort de circulation, ça va être des sujets d'usure des véhicules, et puis ça va être un risque.
Et des là, sujets par rapport au dérèglement climatique, pardon, je vous coupe, mais est-ce qu'il y aura une modification du fait du gel, de la sécheresse, de plus de neige, des matériaux? Je parle à l'ingénieur que vous êtes. Est-ce que c'est anticipé, ça?
Avec très grand plaisir pour en parler en tant qu'ingénieur. Mais ce que je voulais dire à Marc, l'anglais qui porte un gilet jaune, c'est ça qui m'y fait penser, c'est qu'il y a surtout un risque, si l'état des routes se dégrade, qu'on soit contraint à réduire la vitesse limite de circulation sur ces routes.
Et que ça redéclenche un mouvement.
Ils n'ont pas forcément envie non plus. Oui. Donc il faut réfléchir à ça. Pour revenir au sujet du changement climatique, les routes de tout temps, elles ont été construites pour durer. On voit en France des routes d'époque romaine, après tout. Le problème, c'est quand elles sont conçues pour durer, on le fait avec l'hypothèse du climat qui est en vigueur à l'époque. Oui. Donc quand on a construit des routes, des autoroutes il y a 50 ans, c'était avec le climat de l'époque. Et aujourd'hui, avec l'alternance des épisodes de grande chaleur, de froid, eh bien, ça crée des phénomènes, ça abîme le bitume. Encore plus grave, avec les sécheresses, les inondations, ça rétracte, ça fait des mouvements de terrain et ça provoque des fissures aussi. Donc tout ça, ça n'avait pas été anticipé à l'époque et donc ça provoque plus de besoin d'entretien et de réparation.
Lucie Schmitt, l'écologiste, un impensé du réseau routier ?
Oui, parce que je pense qu'il y a un tel antagonisme entre l'écologie et la voiture qu'on ne pense pas la route sans penser que c'est une sorte d'ennemi ou d'adversaire. Et je pense que l'idée de la décarbonation de la route est importante. C'est quelque chose qui a avancé aujourd'hui. Il y a une alliance pour ça, d'ailleurs, qui a été créée. Et puis, il y a la question de l'adaptation de la route aux conditions qui ont été évoquées et le fait qu'il faut que chacun puisse se trouver en situation de mobilité. Vous savez, la mobilité, ça fait aussi partie de l'écologie. Et donc, le sujet, c'est au fond... Comment est-ce qu'on circule sur nos routes? Comment est-ce qu'on est à égalité en termes de sécurité? Moi, je voulais quand même dire une chose, c'est que je trouve que la sécurité routière n'insiste pas assez en France sur le fait que l'état des routes est fondamental en ce qui concerne à peu près 30% des accidents.
Un truc très précis, pardon, quelque chose de très précis. Est-ce que peindre en blanc les routes, ça permettrait par exemple de limiter le réchauffement de ces routes et ces fissures? Tout le monde se dit que c'est une solution, par exemple, utilisée en Californie.
Il y a quand même le sujet de visibilité aussi de la route, ça reflète davantage, donc ça peut être gênant pour l'automobiliste, c'est pour ça que ce n'est pas du tout une solution généralisée à ce stade. En plus, il faut avoir un bon contraste avec le marquage blanc pour des raisons de sécurité, aussi pour des raisons d'avènement d'ailleurs du véhicule autonome.
En fait, il n'y a jamais de solution miracle en écologie.
Julien Vic, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Lucille Schmitt ?
Ce que je pense, effectivement, c'est que la route n'est pas égale au véhicule thermique. C'est-à-dire que la route, c'est le support de toutes les mobilités. Ce sont aussi les pistes cyclables. Le partage de la route, c'est une route aussi qui accueille tous les modes de transport, le vélo, la moto, le bus, le véhicule. Ça, c'est vraiment important, effectivement, à garder, à avoir en tête, parce que sinon, à partir de là, le débat est faussé et nos politiques peuvent se tromper.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir exploré notre question du jour autour de l'état des routes françaises.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.